Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous. Septembre, toujours très beau à Toulouse dans la lumière de l'été finissant, est un mois où se déroulent plusieurs événements culturels d'envergure. Le festival Piano Jacobin est en cours et se poursuit jusqu'à la fin du mois dans cet endroit splendide qu'est le cloître du couvent des Jacobins. Ce week-end, les journées du patrimoine vont nous permettre de visiter des lieux fermés au public le reste de l'année. Un moment d'autant plus attendu que cette édition 2022 est la première depuis 3 ans, exemptée de restrictions et contraintes sanitaires. Un autre événement d'importance est intégré aux journées du patrimoine, l'ouverture au public de la chapelle de la Grave, après des travaux de rénovation qui auront beaucoup duré. Malgré ces manifestations, le patrimoine et les monuments toulousains sont-ils si bien connus que ça par les citoyens de notre métropole? Rien n'est moins sûr, même s'il faut sans doute nuancer ce constat, quelques-uns étant fréquentés par de très nombreux visiteurs chaque année. Quels sont les monuments concernés? Comment sont-ils entretenus et mis en valeur? Nous allons essayer de répondre à ces questions lors de ce numéro dédié à l'ouverture de la chapelle de la Grave et aux monuments toulousains. David Madec occupe depuis peu le poste de conservateur des monuments à la mairie de Toulouse. Il est tout naturellement l'invité de cette émission. Bonjour monsieur et bienvenue à Radio Présence et dans la Ville Rose, puisque vous êtes arrivé il n'y a que quelques mois finalement.
Bonjour et merci de votre invitation. Oui, je suis arrivé au mois de juin.
Alors, dans la mesure où vous venez pour la première fois à Métropolez-vous et que vous êtes depuis peu de temps en poste, je crois que nos auditeurs seront ravis de mieux faire connaissance avec vous, d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours personnel et professionnel, celui qui vous a amené à devenir conservateur des monuments de Toulouse?
Eh bien, j'ai commencé ma carrière dans les musées d'abord. J'ai travaillé au Musée national de la Renaissance au Château des Couans, puis au Musée du Louvre et ensuite au ministère de la Culture à la direction des musées. J'ai ensuite rejoint le monde des monuments historiques, si j'ose dire, où je me suis occupé alternativement du château de Maison à Maison Lafitte, de la Villa Savoie de Le Corbusier à Poissy et du Panthéon jusqu'au mois de juin dernier. Et j'ai rejoint la ville de Toulouse fin du mois de juin de cette année.
Alors, je suis curieux, mais j'imagine que nos auditeurs le sont aussi. Administrateur du Panthéon, ça paraît un poste vraiment extrêmement honorifique. 5 ans, il y a dû s'en passer des choses en 5 ans. Notamment, il y a eu des panthéonisations pendant la période où vous étiez administrateur.
Oui, le Panthéon est un monument assez incroyable. Alors, un monument comme les autres, si j'ose dire. Tous les jours, il accueille du public et il est là pour être ouvert au public et que le public découvre les richesses de ce monument. Mais c'est aussi un monument qui remplit son rôle au moment des entrées au Panthéon. J'ai eu la chance de travailler pour 3 entrées au Panthéon, dans l'ordre Simone Veil, suivi de Maurice Genevoix et ceux de 14, et enfin l'entrée au Panthéon de l'année dernière avec Joséphine Baker. Ce sont des moments assez riches en émotions, puisque c'est des moments où la nation est réunie autour de ses personnalités, autour des valeurs que la République souhaite honorer. Donc c'est vraiment des moments d'une très grande densité. Alors, c'est une très grande densité en termes de travail, beaucoup de choses à organiser. Et puis, la personne qui décide à ce moment-là, c'est le président de la République. Donc, on n'a pas tellement le droit de se tromper.
Oui, il ne faut pas décevoir, évidemment. Alors, je crois que c'est notamment très lourd à organiser sur le plan technique. On n'y pense pas à ça. On voit les gens qui sont invités, mais c'est comme pour un film au cinéma. On voit la scène, mais on ne voit pas tout ce qui est autour. Et oui, le but, c'est de ne pas le faire voir, justement.
L'essentiel, en vérité, se passe autour, mais il faut que les images soient réussies. Pour ça, c'est un long travail. Et effectivement, c'est plutôt de l'ordre d'un film, d'un grand show, où on travaille plus avec des caméramans, avec des gens qui gèrent les images, qui gèrent le déroulement d'une cérémonie aussi, et la symbolique que ça représente. C'est des moments importants.
Une autre curiosité de ma part, c'est une question vraiment un peu personnelle tout de même, pourquoi vous avez postulé à ce poste de conservateur des monuments de Toulouse? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce poste et peut-être aussi dans les monuments qui étaient afférents à la fonction?
Alors d'abord pour un attachement personnel à la Ville Rose, rejoindre ma famille. Ensuite parce que le patrimoine de la ville est riche et très varié. C'est relativement impressionnant pour moi qui suis brestois. Ville rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment assez impressionnant. Mais aussi parce que administrativement, on voit une collectivité qui s'engage sur la question patrimoniale. On peut penser à la chapelle de la Grave que l'on mentionnait à l'instant, mais aussi au Castellet de l'ancienne prison Saint-Michel. C'est aussi une collectivité qui s'organise autour d'une direction des musées et des monuments très dynamique et très volontaire et qui donne envie tout simplement de les rejoindre.
Et puis il y avait l'attirance sans doute aussi pour cette belle ville qu'est Toulouse et pour le sud bien sûr. Merci beaucoup David Madec de nous avoir présenté votre parcours impressionnant ma foi, très varié, celui qui vous a mené à ce poste de conservateur des monuments de Toulouse. Avant de parler de ces monuments toulousains avec vous, nous allons nous plonger dans l'actualité métropolitaine, toujours grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire Métropolez-vous, l'actu. La première information de ce flash concerne l'organisation du Conseil métropolitain avec de nouvelles attributions de délégation annoncées à Toulouse Métropole.
Après sa nomination au gouvernement et en application de la loi sur le non-cumul des mandats, Dominique Faure a démissionné de ses fonctions de première vice-présidente de Toulouse Métropole et de membre du bureau métropolitain et remis ses délégations. Dominique Faure reste en revanche conseillère métropolitaine. Lors de sa prochaine séance, le Conseil de Toulouse Métropole prendra acte de ces modifications et statuera sur l'élection d'un nouveau vice-président. Pour l'heure, Joseph Carl assurera la coordination des politiques publiques de développement économique de Toulouse Métropole et la mise en œuvre de la feuille de route Ambition 2026. Agnès Plagneux-Bertrand, désormais vice-présidente chargée de l'industrie et de l'économie productive, assurera la mise en œuvre des actions d'animation et de rayonnement des zones d'attractivité économique. François Chollet, vice-président chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique, assurera lui la déclinaison économique du plan climat air énergie territorial. Jean-Claude Dardelet a la responsabilité du parc des expositions et du centre de convention du MIT. Et enfin, Bertrand Serpe, vice-président chargé de la transition digitale, assurera les relations avec la French Tech French Fab et de la Ville Intelligente. Ces élus gardent leurs délégations initiales.
Nous continuons avec une nouvelle qui réjouira certainement les utilisateurs de deux roues. L'État salue les actions en faveur du vélo de Toulouse Métropole.
Pour accélérer les projets de création d'itinéraires cyclables, le gouvernement a mis en place un fonds mobilité active avec un appel à projets. Dans ce cadre, 4 projets de Toulouse Métropole en faveur de l'usage du vélo ont été retenus durant l'été et bénéficient respectivement de 19,20% de la dépense subventionnale, soit plus d'1 million d'euros. Sont concernés les projets de l'aménagement cyclable du quai de Tounis, la création d'une piste cyclable route de Grenade à Beauzelle dans le cadre du réseau Vélo Express, l'aménagement cyclable rue de la République rue de Metz et l'aménagement d'une voie verte le long de l'Erse.
Et puis, je les ai évoqués en début d'émission, les 39e journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end, samedi et dimanche un peu partout en France et dans la métropole toulousaine en particulier.
L'occasion de découvrir un patrimoine moins connu et visible de nos communes, celui des cimetières. Toulouse Métropole assure la gestion des 11 cimetières de Toulouse depuis le 1er janvier 2017. Parmi eux, les cimetières de Cornebarieux, Croix Dorade, La Fourguette, La Lande, l'Ardenne, Montaudran, Pouvourville, Rapasse, Saint-Martin, Saint-Simon et Terre-Cabade. À l'occasion des journées du patrimoine, des visites guidées et commentées du cimetière de Terre-Cabade sont organisées à 14h. Les groupes sont limités à 15 personnes. Une visite qui vous permettra aussi de découvrir ces lieux version zéro phyto. Comme dans tous les espaces publics depuis le 1er janvier 2017, les produits chimiques sont désormais interdits dans tous les cimetières.
Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Alors David Madec, je vais vous inviter à réagir à la dernière information de ce flash, celle qui concerne ce patrimoine méconnu, les cimetières toulousains, et pas seulement toulousains d'ailleurs, les cimetières de la métropole toulousaine, ils ont vraiment un intérêt particulier, ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil.
Oui, m'étant occupé du Panthéon, qui est une autre forme de cimetière, oui. Je ne pourrais pas dire le contraire. Le patrimoine des cimetières est particulièrement intéressant. On y voit la stratification de l'histoire et on y voit aussi une stratification de l'histoire de l'art. Le goût se traduit aussi dans les cimetières. Ce sont des moments de promenade, des lieux de promenade aussi. Le zéro phyto participe en plus de ce point de vue-là de manière assez essentielle à une promenade heureuse. Mais on y voit énormément de choses. Et on y voit énormément de choses, parfois de petites choses, mais qui traduisent le goût du temps. Et ça, c'est assez impressionnant de voir comment le goût a évolué jusque dans la représentation de la mort.
Oui, j'invite vraiment nos auditeurs à aller faire un tour dans les cimetières toulousains et celui de Cornebarieux également. Merci pour ces précisions. Nous allons maintenant reprendre notre discussion et revenir au sujet de cette émission, l'ouverture au public de la chapelle de la Grave et les monuments toulousains.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de cette émission avec David Madec, conservateur des monuments à la mairie de Toulouse. Nous allons parler de la chapelle de la Grave et de son ouverture au public dans quelques minutes. Je voudrais d'abord que vous nous disiez un mot sur les monuments dont vous avez la charge, en quoi consiste votre rôle et votre action en tant que conservateur pour chacun d'entre eux, sachant qu'ils ont tous leurs particularités propres, évidemment.
Alors j'ai la chance de m'occuper d'un certain nombre de monuments très importants, la basilique Saint-Cernin, la chapelle des Carmélites, la chapelle de la Grave, vous l'avez mentionné, le castelet de l'ancienne prison Saint-Michel et le monument à la gloire de la Résistance. Ma mission en tant que telle, c'est conserver, restaurer, mettre en valeur. Donc conserver, c'est évidemment assurer que l'on puisse transmettre aux générations futures ces monuments dans le meilleur état possible, restaurer le cas échéant les monuments et les objets, puisque dans ces monuments il existe aussi un certain nombre d'objets, et ensuite c'est toute une partie de mise en valeur. Alors la mise en valeur c'est évidemment l'ouverture au plus grand nombre, et ça c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible. Au Panthéon, quand je suis arrivé, on accueillait 400 000 visiteurs. Cette année, l'équipe du Panthéon devrait annoncer près d'un million de visiteurs. C'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai l'habitude de dire qu'un patrimoine qui n'est pas partagé est un patrimoine qui meurt. Donc il faut absolument faire en sorte que les visiteurs puissent se saisir de ce monument. C'est évidemment aussi un travail, ce travail de mise en valeur, c'est un travail de documentation. Il faut assurer une mise en valeur de qualité, faire en sorte, selon les propos de Vivant Denon, premier directeur du musée du Louvre, que le visiteur puisse être édifié, qu'il apprenne des choses quand il visite. Mais il faut aussi que ce soit un moment de délectation, qu'il y ait un vrai plaisir à visiter ces monuments. Et pour cela, il faut toujours travailler à la recherche scientifique et à la transmission de cette recherche scientifique en organisant des expositions, des présentations, des accrochages de tout type.
Oui, alors il faut aussi que ce soit des lieux vivants, au sens où ce sont des lieux de visite, bien sûr, ce sont des lieux de mémoire aussi, souvent, mais ce sont aussi des lieux qui peuvent être dédiés, qui doivent être dédiés peut-être à la création contemporaine. Il peut y avoir des concerts, il peut y avoir des expositions, il peut y avoir éventuellement des lectures aussi, des conférences.
Oui, l'approche que l'on peut avoir sur le plan culturel de ces monuments, c'est un endroit où on peut considérer que tous les lieux d'expression peuvent prendre corps. C'est vraiment quelque chose de fondamental que chaque visiteur puisse y prendre, y entendre ce qu'il souhaite. Alors, chacun de ces monuments doit aussi avoir une colonne vertébrale. On ne peut pas y faire tout et n'importe quoi. Et cette colonne vertébrale, c'est quelque chose que l'on doit écrire pour quelques-uns de ces monuments, quand ce n'est pas déjà le cas. Mais ce sont des monuments qui ont des cœurs de fonctionnement, des cœurs d'âme, en quelque sorte, qu'il faut amener à faire vivre et à faire partager par le plus grand nombre.
Chacun de ces lieux, qu'est-ce qu'ils ont, selon vous, d'original, de spécifique, voire d'exceptionnel, que ce soit par leur histoire, leur architecture ou tout simplement leur beauté ?
Alors je vais commencer peut-être par le moins connu des monuments dont j'ai la chance de m'occuper, c'est le monument à la gloire de la Résistance qui est sur les allées Mistral, près du Grand Rond, et c'est un monument totalement incroyable, qui a, par sa forme même, quelque chose d'assez incroyable. On doit y plonger littéralement, on doit y descendre. Alors on le repère très bien parce qu'il y a une sculpture qui fait partie intégrante de ce monument.
Ah, il est situé près du Grand Rond pour les
exactement.
Gens qui ne le sauraient pas, hein, parce que souvent les gens ne savent même pas d'une part qu'il existe, mais où il est aussi.
Où il est, exactement. Exactement. Et c'est pourtant un des monuments les plus difficiles, certainement, parce que c'est vraiment cette mémoire de la Résistance, mais aussi le plus sensible. Quand vous y plongez, vous comprenez la douleur, la difficulté qu'a pu représenter la Résistance. Et par son parcours même, c'est plein d'espoir, puisque la sortie de ce monument se fait dans le Jardin des Plantes. Et là, vous retrouvez, selon les volontés des architectes, la lumière. Et c'est le salut, en quelque sorte, qui se présente à nous. Alors, il y a d'autres monuments plus connus. Évidemment, la basilique Saint-Cernin, au lieu essentiel de Toulouse et de la chrétienté. Mais il faut aussi mentionner la chapelle des Carmélites, que l'on peut...
qui est toute proche. En plus
toute proche, voilà. Vous prenez la rue du Thor et puis vous y arrivez quasiment tout de suite. Un chef-d'œuvre de la peinture, c'est vraiment...
À l'intérieur, c'est d'une beauté. Là,
la chapelle
de beauté,
Sixtine de Toulouse, voilà le résumé. Hein. C'est vraiment l'une des plus belles peintures de Toulouse et certainement l'une des plus belles peintures de cette ampleur en France.
Et on vient de fêter tout juste la pose de la première pierre, les 400 ans,
les 400 ans
par Louis XIII et Anne d'Autriche. 1622.
L'autre monument dont je m'occupe, c'est le Castelet de l'ancienne prison Saint-Michel. Alors, le plus jeune d'entre eux, en quelque sorte, puisqu'il a été inauguré l'année dernière. Le Castelet, c'est cet édifice qui assure l'entrée, en quelque sorte, de la prison Saint-Michel. La partie qui, initialement, était la partie administrative, la partie par laquelle les prisonniers entraient et sortaient de la prison. Donc, c'est ce lieu de passage entre la société civile et l'emprisonnement qui, aujourd'hui, est devenu un centre d'interprétation de ce qu'était cette prison Saint-Michel. Michel. Alors tout à la fois sur le plan architectural, l'explication de cette prison en forme d'étoile de manière assez élégante et assez incroyable, avec toutes les considérations que cela veut dire en termes de surveillance, de vie dans cette prison. La vie dans la prison, la vie des prisonniers, la vie des gardiens est aussi un sujet que le Castelet présente. Comment vivait-on quand on était dans cette prison ? Mais il y a aussi ce lieu de mémoire que représente le Castelet de l'ancienne prison Saint-Michel, toutes les exactions commises pendant la Seconde Guerre mondiale et le fonctionnement dans l'immédiate après-guerre qui est à raconter, dont il est important de se souvenir. Alors, pour la petite anecdote, un des grands prisonniers dont on parle souvent, c'est évidemment André Malraux qui raconte comment il s'est échappé. Alors, peut-être que la lecture historique serait plus sérieuse, ne permettrait de dire qu'il ne s'est pas tout à fait échappé tel qu'il le décrit.
Comme souvent, Malraux a tendance à enjoliver un petit peu certaines choses, certains épisodes de sa vie.
C'est le seul ministre de la Culture, je crois, à ma connaissance en tout cas, qui a été en prison pour avoir découpé des œuvres d'art.
Donc, oui, il y a ça aussi dans sa biographie. Effectivement, une chose, on va parler là, dans quelques instants de la chapelle de la Grave, donc qui a fait l'objet d'un grand chantier de restauration. Est-ce qu'il y a encore des restaurations, des rénovations en cours pour certains des monuments dont vous avez la charge? Je pense notamment à Saint-Cernin. Il y a eu un grand chantier autour de Saint-Cernin. Je crois qu'il y a encore des choses à venir.
Oui, alors par chance, le principe des monuments historiques, c'est que quand un chantier s'arrête, il faut commencer un autre. C'est l'assurance, si j'ose dire, d'avoir toujours des ouvriers d'art à proximité pour voir et surveiller les choses. Alors pour Saint-Cernin, effectivement, un grand chantier s'est achevé et un nouveau chantier a commencé sur le massif occidental. C'est la fin du chantier que les Toulousains ont pu déjà voir et c'est le travail notamment sur tout ce massif occidental et la couverture du massif occidental qui reste à régler. Et s'ajoute à ce chantier un second chantier tout à fait particulier, qui est une commande d'une œuvre, d'un vitrail contemporain pour la rose au niveau de l'orgue. Alors c'est une commande tout à fait inédite qui vient du fait que à aucun moment il n'y a eu de vitrail à cet endroit-là. Et aujourd'hui, on a une protection relativement sommaire et donc c'est l'occasion d'apporter une création contemporaine dans cet espace.
Et puis donc, on y arrive, ouverture au public de la chapelle de la Grave, samedi 17 septembre, premier jour des Journées du Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce lieu, nous le décrire un peu, et nous préciser quel est le projet patrimonial et culturel que souhaite y développer la collectivité toulousaine ?
Alors la chapelle de la Grave, c'est déjà un élément physiquement imposant. Tout le monde dit à juste titre, je crois que c'est le monument le plus photographié de Toulouse. C'est cette chapelle de 54 mètres de long, 67 mètres de haut, donc qui s'impose dans le ciel toulousain en quelque sorte. Alors c'est une chapelle qui, il faut bien le comprendre, est une chapelle d'hôpital. Donc elle était centrée sur les patients qui étaient dans cet hôpital de la Grave, avec cette notion d'hôpital que l'on a un peu perdu aujourd'hui, qui n'est pas celui qui ne tourne pas autour des notions de soins, mais davantage autour de l'hospitalité, de l'accueil des personnes dans le besoin. Alors avec un accueil plus ou moins forcé, on pourra le lire dans le parcours de la Grave, avec des passages notamment sous Louis XIV, ce grand renfermement où tout ce qui échappe à la règle de la société, prostituées, enfants abandonnés, malades que l'on ne sait pas soigner, est enfermé, cette période qu'on a appelée le grand renfermement, dans cet hôpital. Alors l'histoire du monument est relativement, de la chapelle en elle-même est relativement aisée, c'est une donation en 1727 qui permet la construction de ce bâtiment, qui permet d'initier le projet de ce monument. Un architecte est choisi en 1750, un monsieur Nel, N-E-L, et en 1758 on pose la première pierre, le 20 septembre 1758, encore quelques jours on fêtera l'anniversaire, et c'est un projet qui subit de nombreux arrêts de chantier. Chose assez classique dans les grands chantiers de construction, d'abord par des inondations, ensuite par la Révolution en 1792 notamment, et c'est un chantier qui est repris en 1835 pour enfin que la première messe se tienne en 1845 dans ce monument. Alors il faut imaginer toutefois qu'entre 1792 et 1835, le bâtiment est resté à ciel ouvert, il n'y a pas de couverture. Donc très vite, on voit des difficultés de construction apparaître. En 1849, on voit de très grandes fissures et le bâtiment est fermé. On fait une première de très grandes réfections en 1934. Et les dernières réfections ont lieu en 1970 et s'achèvent en 1976 avec la réfection du dôme, de la toiture du dôme, pour le bâtiment que l'on connaît, qui nécessitait à nouveau de grands travaux, et notamment de grands travaux de restauration. Et le parti pris de la restauration qui a été menée dans ce bâtiment a été de retrouver l'esprit de cette chapelle d'hôpital, et ainsi ça nous permet de faire comprendre aux visiteurs d'aujourd'hui quel était le fonctionnement de cet hôpital hier, en quelque sorte.
Très gros chantier, c'est un investissement de près de 4 millions d'euros tout de même.
Exactement, un énorme chantier puisque l'ensemble de la structure a été restauré. Des éléments de décor qui avaient été perdus ont été retrouvés. Les visiteurs pourront notamment admirer des faux marbres verts et rouges totalement incroyables en trompe-l'œil qui nous laissent rêveurs quand on entre dans le bâtiment. Et c'est doublé de cette restauration aussi un parcours permanent pour bien comprendre ce qu'est cette chapelle.
Un parcours muséographique, on va prononcer le mot. 12 étapes.
Exactement.
C'est pas les 14 stations. C'est pas les 14 stations du Christ, mais il y a 12 étapes. Alors, sans peut-être tout dévoiler, parce que bon, il va falloir se déplacer samedi prochain pour voir ça, mais qu'est-ce qu'on va découvrir ?
Alors, le parcours, c'est d'abord glisser dans les interstices de cette chapelle avec l'idée de ne pas être trop présent, pour le coup, de bien laisser place à cette chapelle et que le visiteur admire le lieu. Et ensuite, l'idée a été de donner les clés de cette chapelle à tous les visiteurs, permettre de comprendre tout à la fois les questions d'usage de ce monument, les questions architecturales, les questions de l'histoire de ce monument, de son histoire, de sa construction, mais aussi de le rapprocher au plus près des habitants, des résidents de cette chapelle. Et donc, à travers des écrans, il y a des vidéos qui présentent comme le témoignage, en quelque sorte, de ces gens qui ont subi ce grand renfermement. Donc, on voit une ancienne prostituée, la vie qu'elle mène, on voit un enfant abandonné, comment les sœurs de charité s'en occupent. Et on voit, à travers l'ensemble de ces stations, quelle est la vie de ces résidents dans ces monuments. Et il y a ensuite, j'invite tout le monde à regarder de manière très attentive les confessionnaux, puisque l'usage des confessionnaux a été détourné de manière très élégante, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la visite du monument.
Oui, il y a une exposition d'objets religieux également
sur ce parcours. Dans la sacristie, dans l'ancienne sacristie en tout cas, on a installé des vitrines qui permettent de présenter tout à la fois des objets de culte, mais des objets de culte révélateurs de la vie, encore une fois, dans cette chapelle. L'idée est bien d'amener à comprendre comment vivaient les habitants de cette chapelle.
Donc il va y avoir ce parcours muséographique permanent, mais est-ce que ce lieu va aussi être dédié à recevoir des expositions ponctuelles ?
Oui, bien sûr. L'idée est que ce monument soit aussi un lieu de vie, un lieu où les Toulousains, les habitants de la métropole et les touristes aient envie de venir et de revenir. On sait, l'expérience des musées est de ce point de vue-là éclairante, qu'un parcours permanent est un socle solide. C'est une colonne vertébrale grâce à laquelle on peut développer d'autres projets d'exposition, d'autres projets d'événements culturels qui nous permettront de mailler comme ça la vie de ce monument, la nouvelle vie de ce monument.
Les journées du patrimoine dans les lieux dont vous avez la charge, est-ce qu'il va y avoir des actions, des animations spéciales, particulières, pour profiter de l'événement ?
Oui, alors l'idée des journées du patrimoine, c'est évidemment de faire découvrir au plus grand nombre ces monuments, de leur faire découvrir la programmation. Et donc, dans chacun de ces monuments, il y a des médiateurs qui seront là pour accueillir les visiteurs, pour les aider à franchir le pas de ces portes, faire en sorte que tout leur soit accessible le plus facilement possible.
On va terminer là-dessus, puisque vous venez d'arriver, je suppose que vous avez un projet, vous avez des ambitions pour les monuments dont vous avez la charge. Quel est ce projet ? Quelles sont ces ambitions ? C'est d'abord de développer la fréquentation et surtout de faire en sorte que les Toulousains, les métropolitains, l'ensemble des citoyens métropolitains aient une meilleure connaissance, d'une part de l'existence de ces monuments, mais aussi de leur histoire, de leur richesse.
Oui, c'est tout à fait cela. L'ambition pour ces lieux, c'est vraiment qu'ils soient partagés par le plus grand nombre. D'abord, les Toulousains et les habitants de la métropole, parce qu'ils seront les meilleurs ambassadeurs de ces monuments. Et ensuite, parce que nous avons vécu quelques crises, espérons qu'elles soient derrière nous, la crise Covid, ce genre de choses, les attentats. On sait que ces moments sont des moments où le tourisme se réduit, et donc où il ne faut pas avoir une économie, à proprement parler, de développement de nos établissements culturels basés sur le tourisme. Quand on voit la situation de Versailles aujourd'hui, il ne faut pas retranscrire cela dans des monuments tels que ceux de la ville de Toulouse. Et donc l'idée, c'est bien de faire en sorte que les Toulousains, les métropolitains puissent se saisir de ces monuments, de sorte à ce que les touristes, à leur tour, puissent s'en saisir. Et l'idée du partage de ces monuments, c'est aussi d'inscrire les Toulousains dans une histoire sur du temps long. Savoir quelle a été la vie de cette chapelle nous permet d'éclairer notre vie aujourd'hui.
Bien entendu, et oui, l'histoire, c'est aussi le passé qui a des résonances dans le présent. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, David Madec. Nous allons vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle fonction de conservateur des monuments de Toulouse, ce samedi 17 septembre donc, ouverture au public de la Chapelle de la Grave et journée du patrimoine tout le week-end à Toulouse. Pour en découvrir le programme, vous pouvez consulter le site de la mairie, www.toulouse.fr, la rubrique patrimoine. Il y a aussi des visites guidées, sachez-le, proposées par l'Office de tourisme, www.toulouse-tourisme.com. Beaucoup de choses à faire et à voir. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci de votre fidélité et bonne fin de semaine à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.